Salut.
Bonjour à tous, il est 17h, nous sommes le mercredi 10 janvier 2024. C'est parti pour une nouvelle année pour présenter des livres, échanger avec des acteurs de la chaîne du livre. 1h30 jusqu'à 18h30, vous allez écouter Au fil des pages sur Radio Libertaire. Frédéric, Agnès, Dominique, Francis et aujourd'hui notre invité Alain Eludu pour son livre « L'allure des chemins » paru aux éditions L'Étoile des Limites en 2023. Un recueil de poèmes pour commencer l'année 2024, je trouve cela plutôt agréable. Frédéric, avant de commencer nos lectures, y a-t-il des annonces ?
Tout à fait. Alors, toujours comme j'avais annoncé, mais je le réannonce, le mercredi 17 janvier 2024, à 20h, à 145 rue publique Amelot, la librairie Publico, je vais y arriver, le film Schkoun, avec, en présence de l'auteur, réalisatrice, Schkoun parle, disons, d'un tournage, enfin, c'est un tournage sur le tournage des sauvages, c'était une expérience et donc les personnes s'expriment dessus. Voilà, je vous rappelle donc le mercredi 17 janvier à 20h. Il y aura aussi le 21 janvier, mais ça vous retrouverez sur notre blog groupe de communes de Paris, overblog.com, la causerie populaire libertaire du 21 janvier à 15h30, toujours librairie Publico, 145 rue Amelot. Les informations seront mises d'ici quelques petits jours, mais d'ores et déjà, le thème sera l'école, la précarité dans l'enseignement et tout ce qui tourne autour du monde de l'éducation. Je repasse le micro à Francis.
Merci. Et puis alors, le 21 janvier, c'est une date extrêmement importante puisque c'est la mort de Louis XVI. Et on est très contents. Voilà, c'est fort sympathique, dites donc. Alors, en plus de nous écouter, écrivez-nous, émission Au fil des pages, librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Nous allons tout de suite, pour des raisons d'organisation, passer à la moulinette, Alain Eludu. Alors Alain Eludu, on va parler poésie. Puis la randonnée, c'était une pratique sportive qui était très prisée par les anarchistes au siècle dernier, et puis de façon individuelle aujourd'hui. Et là, tu nous attires avec l'allure des chemins. Tu publies des poèmes. Est-ce que tu as publié des romans déjà ? Non ? Uniquement des poèmes ?
Non, que des poèmes, oui.
Et donc là, aujourd'hui, nous allons parler de l'allure des chemins. Et en 2017, tu avais publié Géographique, toujours aux éditions L'Étoile des Limites. J'aime bien poser cette question à un poète à chaque fois qu'il vient dans notre émission. Qu'est-ce que la poésie pour toi ?
La poésie, c'est à la fois l'illusion qu'elle apporte, la liberté, le rêve. Mais c'est aussi se confronter aux mots par l'engagement qu'on peut y trouver, l'engagement que font les mots. Surtout en poésie, il me semble qu'on n'écrit pas des poèmes comme on écrit un roman, parce que les mots ont une importance, une signification, me semble-t-il, plus importante. Et donc c'est ça. Et je reprends donc la poésie, c'est à la fois la liberté, la folie d'écrire comme on veut, comme on l'entend, mais c'est aussi ce que les mots représentent et ce qu'ils véhiculent.
Ouais. Et dans ta manière de rédiger, tu es dans la logique du vers libre. C'est pas un sonnet à la Ronsard.
Non, quoi. C'est pas un sonnet à la Ronsard. Enfin, dans ce recueil-là, oui. Non, pas du tout. Oui. Ça m'arrive parfois de faire des versifications plus classiques, mais là, c'est pas le cas.
C'est le vers libre. Et là, c'est l'imagination,
c'est le rythme. Oui, c'est le rythme surtout qui fait la mise en page, on va dire.
D'accord. Et puis, et c'est vrai que vous goûterez dans ce petit livre, L'allure des chemins, bah vous trouverez des textes très courts, trois vers, d'autres beaucoup plus longs, des textes, on a l'impression de voir un petit, comme une lettre. Enfin, c'est très varié en fonction de ce que tu as envie de partager. Hein, c'est ça. Oui. J'aime bien poser aussi une autre question. Il faut une forme de courage et de volonté pour écrire, parce que dans la poésie, particulièrement dans la poésie, l'auteur se révèle un peu.
Oui, certainement, oui. Bien sûr, c'est difficile de cacher ce que l'on est. Oui, enfin, on se révèle, on se dénude quand on écrit des poèmes, il me semble.
Oui, probablement plus qu'un essai de droit public.
Sans aucun doute.
Il n'y a pas de souci. Bon. Oui, donc on se révèle. Et pourquoi écris-tu, alors?
Pourquoi j'écris j'ai toujours lu de la poésie, enfin, depuis que je suis adolescent. Depuis que j'ai été adolescent. J'ai lu de la poésie. Je n'en écrivais pas, c'est venu plus tard, parce que j'ai été peintre en fait pendant une dizaine d'années, entre mes 20 et 30 ans, j'ai été peintre. Et puis à la naissance de mes enfants, ben, progressivement j'ai cessé de peindre.
Peintre, aquarelle, je faisais gouache, qu'est-ce qu'on dit tout
oui, j'ai fait de la gouache,
Agnès, mais... qui est dans le domaine.
Acrylique,
j'ai fait de l'acrylique, mais j'ai peint à l'huile sur toile, mais j'ai peint aussi, on était dans les années 70, et je peignais sur des grands panneaux de stratifiés, je peignais à la laque glycérophtalique. C'était des peintures géométriques. Mais bon, j'ai peint aussi plus figuratif après sur toile. Alors, mais tout ça pour dire que, pardon, quand mes enfants sont nés, je me suis détaché progressivement de la peinture, et je me suis mis à écrire, c'est venu très lentement. Et voilà.
Alors tu dis, bon, l'âme se dénude, un mot, une phrase, l'âme se dénude, et les titres, moi j'aime bien les titres aussi dans les livres, quels qu'ils soient, l'allure des chemins, le titre a plusieurs sens. Est-ce que c'est la forme des chemins, le rythme de la marche sur ces chemins? C'est quoi l'allure des chemins?
C'est un peu les deux, oui, bien sûr.
Un peu les deux.
Oui, forcément. Oui. Les chemins, c'est vrai qu'ils ont une allure dans leur géométrie, dans leur configuration. Ils montent, ils descendent, ils tournent, et voilà, ils ouvrent le paysage. Au contraire, des fois, ils le ferment parce qu'ils sont bordés, parce que... Donc ça c'est ce que l'on voit du chemin, mais c'est aussi l'allure, le rythme avec lequel on l'emprunte. Et ce rythme est lié à la fois à la forme du chemin, mais est lié aussi à notre état d'esprit, la rêverie, la déambulation, la démarche plus ou moins.
C'est Giono qui en parlait dans un de ses livres, en disant que le marcher, ça faisait réfléchir.
Complètement, ça, je suis tout à fait d'accord.
Ouais.
Ça c'est évident, oui.
Ouais.
Oui. Et donc c'est marcher dans les chemins, en particulier les chemins. Je parle pas de marcher sur les routes. C'est les routes rectilignes, il y a des voitures et tout ça. Sur les chemins, quoi, c'est tout à fait différent.
Et on se croirait, sur certaines pages, dans le Nivernais, près du Morvan, et l'amateur de randonnée que je suis se retrouve au fil des pages, parce que j'ai... Alors, le Nivernais, j'ai pas eu l'occasion de randonner, mais dans le Morvan, oui. On retrouve, et notamment, on retrouve ces chemins qui montent, et ça me fait penser aussi à un livre, L'histoire de la campagne française, de Gaston Roupnel, qui est un vieux sociologue historien, qui était paru chez Terre humaine, où Roupnel nous montre que les sentiers, souvent, ont des territoires, coupent des territoires, accompagnent des territoires, et que ça peut remonter jusqu'aux Gaulois et même plus avant. C'est-à-dire, quand on est sur des chemins, les vrais chemins, c'est pas la route, effectivement.
Oui, bien sûr, oui. Mais ils racontent, ils ont des histoires, les chemins, quoi.
Oui.
Oui, certainement, oui. Et... Bon, j'aime ça particulièrement. Tu parles du Nivernais. C'est vrai que c'est en partie dans cette région-là que j'ai écrit ces poèmes, parce que j'ai une maison dans le Nivernais, donc. C'est un paysage qui est très inspirant. Pourquoi ? Parce qu'il y a de nombreuses collines, il y a des forêts, beaucoup de forêts, et aussi beaucoup de rivières.
Et donc c'est varié
comme... c'est très varié, oui.
Ouais.
Et il y a des... Par exemple, dans le coin où je suis, il y a plusieurs rivières, des cours d'eau qui portent le même nom, la Nièvre, tout simplement. Et on la retrouve à différents endroits.
Sans te poser une question piège, la Nièvre, c'est un vieux nom latin, gaulois.
Je ne sais pas dire. Je ne sais pas.
Bon, on trouve parfois des résonances assez étonnantes. Il y a aussi un autre auteur qui s'appelle Jacques Lacarrière, qui avait écrit un livre Chemin faisant. Et là, c'est pareil, on retrouve vraiment des références, des échos dans ton texte. Et puis, il y a aussi la lenteur du pas. Tu en parles à un moment. Mm-hmm. La lenteur du pas, la lenteur du paysan, celui qui sait qu'il y a un effort à accomplir, le natif des lieux, donc il connaît ces lieux, il les habite, et il habite ces chemins, non, c'est ça ?
Oui, oui, bien sûr. Mais je dirais que moi, je ne suis pas natif du coin, là, de cette région. Mm-hmm. Et je m'aperçois que les chemins, justement, ils ont eu une relation particulière avec les gens, justement. Enfin, c'est les gens qui entretenaient une relation. Mm-hmm. Parce que c'était des moyens de communication entre les fermes, mais c'est des moyens qui... C'est des choses qui disparaissent, hein, progressivement. Les chemins disparaissent tout doucement. Bon, de quoi ça vient, je ne sais pas. C'est des romans successifs. C'est les routes qui ont... C'est la motorisation. Il y a moins de marcheurs, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que de nombreux chemins disparaissent.
Oui, et puis il y a les chemins, ce qu'on appelle les chemins ruraux, qui sont entretenus par les communes.
Oui.
Ça coûte cher aux communes. Et vous avez parfois des gens qui viennent avec des tracteurs et qui foutent en l'air les bornes. Et puis après ça, hop, vous apercevez que le chemin qui était un chemin pour faire passer une charrette, vous pouvez marcher les uns derrière les autres à la queue leu-leu.
Oui.
Bon, parce que voilà, faut quand même dire ce qui est. Et tu cites un moment Jacotet.
Oui.
Les frais, c'est-à-dire la chouette.
Oui.
Pourquoi ?
Ça, je ne sais pas, c'est Jacotet qui a donné le titre à son recueil, c'est un de ses premiers recueils. Jacotet, c'est un poète vaudois qui a passé la majorité de la grande partie de sa vie en France, à Grignan, dans la Drôme. Mais
chez quelqu'un...
Non, il a vécu là.
Il n'y a pas un château à Grignan
Ah, mais il habitait pas le château, je crois.
La fille de Madame de Sévigné, voilà, il y a un festival des lettres.
Oui. Mais c'est une région qui a dû lui plaire, quoi. Mmh. Et donc, Les Frais, c'est pour revenir à ce titre-là, c'est le titre de son premier ouvrage paru en France. Et bon, Jacotet est un poète qui m'a parfois inspiré. C'est un poète de l'effacement, Jacotet. Il parle beaucoup du paysage, il est attaché au paysage. C'est la raison pour laquelle il a peur de perdre quelque chose. Contrairement il prend le contre-pied de Sénèque, qui disait qu'il fallait... il n'y avait pas de retour possible en arrière. On allait toujours en avant. Jacotet, lui, il craint de laisser des choses et donc il revient. Et ça m'intéresse, cette idée-là, de pouvoir faire demi-tour sur le chemin afin de ne rien perdre.
Et tu, hormis Jacotet, tu as d'autres poètes qui t'inspirent, qui te font écho ?
Oui, enfin, quand j'ai commencé à lire de la poésie, justement, des poètes comme Jacques Reda, comme Michel Deguy, comme Jules Stéphan. Ces trois-là en particulier m'ont accompagné toute ma vie, quoi. C'est des gens que je lis, que je relis, ouais, fréquemment. Mmh. Ouais.
Est-ce qu'il y a une logique dans l'enchaînement de tes poèmes? Il y a un rythme des saisons, celui du jour qui passe. Comment tu vois les choses?
C'est rythmé entre le jour qui passe, le temps qui passe, les saisons. Oui, c'est vrai. Sinon, non, il n'y a pas un enchaînement particulier. C'est
à chaque fois que tu reviens dans ce Nivernais que ça t'inspire.
Oui, on va dire ça, oui.
Oui. Donc, on y va à différentes saisons.
Oui.
Faut y aller en ce moment, il doit faire moins 5, ça doit être
oui,
sympa.
Certainement, oui.
Oui, parce que s'il fait moins 2 sur Paris, il doit faire moins 5 là-bas.
C'est vrai.
Et dans le poème Découpe, on est dans ton jardin.
Oui.
Pourquoi Découpe et qu'est-ce que tu évoques avec cette référence au jardin?
Je parle de l'ombre qui apparaît enfin sur la lavande, mais quand on rentre dans le jardin, en fait il est fermé le jardin par une haie de piraconta. C'est des gros arbustes piquants, mais dès qu'on ouvre la barrière du jardin, il y a une grosse lavande et qui est toujours en mouvement par les insectes qui la visitent. Mmh. Et il y a des jeux d'ombre, là, j'aime bien.
Il y a l'odeur.
C'est l'odeur, oui, bien sûr. Oui, bien sûr.
Ah,
l'odeur et puis la couleur l'été, c'est une plante formidable à ce niveau-là. Oui. Mais donc, c'est bien le jardin que je connais, dans lequel il y a quelques arbres, en particulier des arbres fruitiers, un petit peu. Et puis... Et en face de la route, il y a une mare qui est entourée d'arbres. Et ça donne sans doute le nom du hameau qui s'appelle Le Breuil.
Oui.
Je pense que c'est ça. Enfin, il n'y a plus beaucoup d'arbres, en fait. J'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Parce que ces dernières années, il y a eu moins d'eau dans la mare aussi. Peut-être que c'est à cause de ça, je ne sais pas. Et puis, les cantonniers coupent les arbres de plus en plus ras, j'ai l'impression.
Oui, il y a de ça. Et puis alors, dans Soleil, on est en été. On est dans les champs. Et j'ai l'impression de ressentir la chaleur en marchant. Quand quand on lit ton poème, on a l'impression d'avoir la cagna quand on marche comme ça, qu'il est 15h30, 16h, qu'on dit « bon, ben, faut quand même y aller ». Et puis, c'est très, très pesant. T'as choisi les mots ou c'est venu comme ça?
Moi, j'ai choisi, hein, sans doute.
Ouais.
Mais là, je fais référence à la moisson. C'est quand on ramasse.
Oui.
Après ça, les paysans font des grosses roues de paille.
C'est des roues maintenant. Oui.
Ouais. Et c'est ça qui m'impressionnait. Après la moisson, il faut qu'ils rentrent très rapidement dans les silos parce que s'il se met à pleuvoir, c'est compliqué après. Mmh. Et donc il y a un va-et-vient pendant quelques jours de camions, de tracteurs qui sont remplis de ces roues et ça dégage quelque chose de très particulier.
Ouais. Ouais.
Et surtout quand il fait chaud, c'est vrai.
On a l'impression de voir l'air qui tremble.
Oui.
On le ressent bien dans ce poème. Et puis, j'aime beaucoup aussi la marche, évidemment. J'aime beaucoup la marche. Je cite « Le chemin empierré est ancien, mais toujours utilisé et entretenu. » Ça, alors là, ça me fait vraiment penser à Rouppenel et puis à ce que je vis. C'est le chemin auquel tu penses, il est ancien, entretenu, etc.
Je ne sais pas s'il est réellement ancien. Enfin, si, il est sûrement ancien. Si.
Ouais.
Si, sûrement, oui. Mmh. Et puis, il y a des... Il est entretenu, oui. Parce que s'il n'est pas entretenu, donc il y a des... comme on disait tout à l'heure, il y a des branches qui vont tomber, il y a des arbres qui tombent même, sont envahis par les orties.
Oui, les ronces,
ouais, tout ça. Mais le chemin auquel je pense, oui, il est entretenu. Et c'est un plaisir parce qu'il est relativement large et on peut encore marcher agréablement dedans.
D'accord. Dessus, alors, il y en a un autre, Défait. Est-ce que tu peux nous lire Défait, ce poème, et puis nous l'expliquer?
Oui.
Ah oui, de toute façon, on a posé la question, il est obligé de répondre oui.
Mot après mot, le jour se défait de ses frayeurs. Nulle saignée ne le sauvera, mais l'obstination le conduit. Bon, c'est un poème qui est très court.
Alors
Je prends le jour comme une menace et petit à petit, avec le jour qui se lève, les menaces vont peut-être disparaître. Et c'est parce que, comment dire, je parle de la mort en fait. J'ai du mal à m'exprimer parce que je parle de la mort. Mmh. Et on sait que qu'on est que de passage et oui. qu'on a une obstination à faire avancer les choses, à vivre, à trouver des chemins qui nous mèneront quelque part. Mmh. Et voilà. Et donc je pense qu'avec cette certitude qu'on a, ce vouloir vivre, on se défait de nos frayeurs comme le jour se défait de nos frayeurs parce que nous sommes le monde.
Oui, ouais. Et qu'on a peur et on va vers la lumière.
Alors, je ne sais pas si vers la lumière, mais on va vers quelque chose.
On va vers quelque chose. Oui. Plus loin, tu parles des asphodèles. Alors les asphodèles, c'est une fleur méditerranéenne que je connais bien. Mais pourquoi les asphodèles? Ça, c'est pas le Nivernais, ça. Ou alors non. Tu les as implantées. et avec le réchauffement climatique, tout est possible. Et elles sont aux portes de l'enfer. Oui. Pourquoi?
Les asphodèles, on les trouve dans l'Odyssée, on en parle. Dans l'Odyssée, c'est à la porte des enfers, oui. Parce que c'est là que sont les âmes des morts, ceux qui n'ont ni, qui sont pas des assassins, mais qui sont pas non plus des, ils sont entre deux, ils sont pas des vertueux, mmh. pas des assassins, mmh. et ils sont entre les deux, et ils errent là éternellement, mmh. ils sont toujours dans l'attente, mmh. mais il se passera rien, ils seront là tout le temps.
Et les asphodèles, on en trouve dans le sud de la France,
oui,
on en trouve
oui,
en Corse,
sûr, oui.
on en trouve, je crois, aussi en Afrique du Nord, en tout cas, en Sardaigne. Et ce qui est intéressant, c'est de les voir, et alors c'est dans l'Odyssée, c'est aussi dans l'Énéide oui. de Virgile, et quand on est entre chien et loup, ou très tôt le matin, pour reprendre ta formule de tout à l'heure, on les voit bouger au vent et on a l'impression que ce sont les âmes qui cherchent et qui ne peuvent pas rentrer. C'est ce que Virgile explique dans l'Énéide.
Oui, absolument, c'est ça, oui. Mais c'est cette notion-là qui me plaît, quoi, que je trouve très intéressante. Quoi,
ouais.
Et c'est une errance perpétuelle.
Oui. Mmh. Oui, elles n'arriveront pas. Mmh. Alors, comment écris-tu d'une traite, par période t'as besoin d'un lieu où t'écris n'importe où
J'écris dans un petit carnet, toujours, un petit carnet Rodia, mmh. Rodia numéro 13.
Oui, toute publicité est interdite sur Radio Libertaire, c'est sanctionné. Vas-y, oui.
J'ai besoin de ça. Alors, donc, j'écris pratiquement tout dans ces carnets. Mmh. Mais là, c'est noté, c'est des phrases, des mots.
C'est des sensations,
des choses comme ça.
Des couleurs.
Mais après, c'est le travail, sur l'ordinateur, au bureau.
T'as besoin de travailler sur un bureau
Oui. Mmh. Seul sur un bureau, oui, bien sûr. Puis là, ça vient pas. Parce qu'il y a c'est pour tous les arts, je pense qu'il y a une part d'inspiration. Il faut avoir une certaine inspiration à un moment. Mais c'est le travail après qui conduit ce qu'on fait. Et, mm-hmm. et c'est la plus grande importance, c'est ça. Enfin, c'est la partie la plus importante, c'est le travail qui est fait après, plutôt que l'inspiration du moment.
Après, il faut construire.
C'est ça, oui.
Tes textes sont d'ailleurs, en termes de construction, de formes variées. Il y en a même un en italique. Pourquoi ces choix de l'italique?
C'était simplement parce que je voulais faire comme un dialogue.
D'accord.
Je posais quelque chose et puis une réponse à côté. Quoi. Voilà.
Il y en a un qui est dédié à Catherine Danou, qui a illustré deux de tes textes. Qui est Catherine Danou?
C'est une amie qui est peintre. Elle peint sur du papier, enfin les livres qu'on a fait ensemble, c'était pour un travail particulier. C'est un papier, qui s'appelle comment ? C'est de chanvre. C'est-à-dire il y a des cordes de chanvre qui sont dans le papier. C'est un papier qui est un peu transparent, si bien qu'on les voit ces cordes, ça fait comme des petites cases. Et elle peint des taches de couleurs. Elle superpose, elle déchire, elle met en scène des choses comme ça, les transparences me plaisent beaucoup.
Oui.
Voilà.
Et Peut-être pour clore cet échange, pourrais-tu nous lire Humilité.
Humilité. Mes amis et moi acceptons l'idée de ne pas tout savoir et de ne pouvoir tout expliquer. D'autres que nous, peut-être, un jour, apporteront des réponses. En attendant, nous vivons sereinement, sans Dieu ni superstition. Les raisons de nos angoisses sont bien plus profondes et nos colères plus fortes qu'un engagement politique. Mais la joie ne nous fait pas défaut et nous apprécions de pouvoir la partager avec des inconnus quand nous croisons leur chemin.
D'autres projets de livres, Alain ?
Oui, ben j'ai un livre qui est prêt, que j'essaie de publier, mais publier la poésie, c'est pas simple.
C'est aussi un recueil de poèmes.
Oui, c'est poèmes. Et j'en ai un deuxième aussi que je reprends pour la troisième fois.
Que tu reprends, pourquoi ?
Je reprends parce qu'il n'est pas achevé. Quand il me...
ouais. Ouais.
Mais encore une fois, publier la poésie, c'est dur. Gérard Martin, l'éditeur de Étoile des Limites, c'est un petit éditeur qui est dans le Lot. Il publie, je sais pas, 5 livres par an, quoi, un truc comme ça. Et donc, c'est difficile pour un éditeur et pour un poète, ça l'est encore plus.
Oui, tout à fait. C'est... Ouais. Alors, donc, nous aurons d'autres livres à présenter dans l'année qui vient, peut-être, on verra.
Peut-être.
Hein, voilà, c'est la période des vœux, donc on peut se permettre de faire ce genre de perspective. Eh bien, merci Alain, en tout cas, d'être venu. Est-ce que tu voudrais nous mentionner quelque chose d'autre, ou bien est-ce que tu considères que il faut qu'on aille voir lire ton livre?
Ah oui,
hein, faut le lire, hein.
Ah oui, absolument, oui.
Bon, on peut le trouver chez Publico.
Il n'est pas Publico, non.
On peut le trouver comment alors?
Bah, il faut le commander dans n'importe quelle librairie, en fait.
N'importe quelle librairie.
Ouais. Même à Publico, on peut le commander, je pense.
D'accord.
Mais
très bien. Nous aimons la poésie et nous allons demander à Frédéric de nous passer Léo Ferré qui chante Verlaine, j'espère qu'il l'a, et particulièrement l'art poétique. Il cherche.
De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise, rien de plus cher que la chanson grise où l'indécis au précis se joint. C'est des beaux yeux derrière des voiles, c'est le grand jour tremblant du midi, c'est par un ciel d'automne attiédi, le bleu fouillis des claires étoiles, car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance, oh, la nuance, seule fiance, le rêve au rêve et la flûte au corps, fuis du plus loin la pointe assassine, l'esprit cruel et le rire impur qui font pleurer les yeux de l'azur et tout cet ail de basse cuisine. Prends l'éloquence et tords-lui son cou et tu feras bien en train d'énergie de rendre un peu la rime assagie. Si l'on y veille, elle ira jusqu'où? Oh, qui dira les torts de la rime? Quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou un sourd qui sonne creux et faux sous la lime de la musique encore et toujours, que ton verre soit la chose envolée qu'on sent qui fuit d'une âme en allée vers d'autres cieux à d'autres amours. Que ton verre soit la bonne aventure éparse au vent crispé du matin qui va fleurant la menthe et le thym, et tout le reste est littérature, et tout le reste est littérature.
Bonsoir Dominique.
Allô ?
Oui. Voilà, parfait. Alors, on est un peu organisé différemment aujourd'hui parce qu'on a des petites questions techniques à régler. Aujourd'hui, dans le cadre de notre série Les romans de la vie, tu vas nous parler d'un livre de Robert Ménas, La Capitale, oui, paru chez Verdi en 2019, c'est ça ?
Oui.
Alors, de quoi s'agit-il ?
Alors d'abord, un petit rappel sur l'auteur. C'est un écrivain autrichien né en 1954 qui est à la fois traducteur et auteur. Il a déjà reçu un prix du livre européen en 2015 pour son essai Un messager pour l'Europe, plaidoyer contre les nationalismes, et il vient de recevoir fin 2023 le prix du livre européen, cette fois-ci pour un roman, L'élargissement, qui est le tome 3 du livre que je vais présenter, La Capitale. Donc l'Europe tient vraiment un rôle essentiel dans son œuvre.
Alors de quoi s'agit-il ? Parle-nous un petit peu de ce roman.
Oui, alors ça commence par un meurtre dans un hôtel connu de Bruxelles et par l'errance d'un cochon. Alors c'est un peu loufoque hein, comme prologue, mais c'est suivi de portraits de plusieurs personnes qui a priori n'ont rien à voir entre elles, mais qui sont liées par l'histoire européenne. Ménas donne à chaque chapitre des titres assez longs. Par exemple, il n'est pas obligatoire qu'il existe des liens entre les choses, mais sans eux, tout se désagrégerait. Donc rien que la lecture du titre est assez informative. Alors, il est beaucoup fait référence dès le début du livre à celui de Musil, L'homme sans qualité, sur l'effondrement de l'Empire austro-hongrois. Parce que bon, Ménas a peur que l'Europe s'effondre.
Mais pourquoi ?
Alors, pas parce qu'il y a des tas de choses qui ne vont pas. Alors, à commencer par, il dresse le portrait des fonctionnaires européens. Certains sont savoureux. Alors, notamment, il y a une femme, une des héroïnes, c'est une femme grecque, Phénia.
Oui, ça nous rappelle quelqu'un ?
Oui, oui, on a une amie qui est très proche. Alors, cette Phénia fait la Longone School of Economics. Elle n'a pas le temps d'avoir un mari et des enfants. Elle ne croit qu'au commerce mondial libre, mais manque de bol, on lui confie la direction de la culture, qui est un service sans budget, sans politique, alors qu'elle brigue la direction du commerce. Alors, elle raconte d'ailleurs que quand le commissaire au commerce ou à l'énergie part aux toilettes, on suspend la réunion, pas celui de la culture. Alors, bon, elle dit que la culture souffre d'une mauvaise image de marque de ce service, sauf Erasmus, et encore, Erasmus, c'est plus rattaché à l'éducation qu'à la culture. Alors, par contre, dans le livre démonte la phrase de Monet que tu as dû entendre, qui aurait dit « si c'était à refaire, je recommencerais par la culture ».
Oui, on le dit, hein, bon, ça
fait partie. Ah, mais elle est absolument pas confirmée, et l'auteur le dit. Alors, elle a un chef de service qui est un idéaliste. Donc elle oppose d'ailleurs cet idéaliste au carriériste, et l'auteur se moque un peu des idéalistes. Ils disent qu'ils sont trop peu nombreux pour former une majorité, et il y a toujours un détail qui contrecarre leur idéal. Oui. Alors, sur les carriéristes, donc l'auteur les nomme les salamandres.
Ah oui, alors c'est quoi les salamandres ?
Alors, parce que c'est une bestiole qu'on peut jeter au feu, qui ne brûle pas, indestructible. C'est-à-dire, c'est des gens qui
ressortent.
C'est une légende, oui. Mais ça veut dire que c'est des fonctionnaires qui ressortent dans tous les services et qui sont indestructibles.
Oui, ça, on en connaît aussi, ça là, oui.
Oui. Alors, ils se retrouvent bien sûr dans les directions générales les plus prestigieuses, le commerce, l'énergie ou les transports. Alors, le cochon que nous avons croisé au début va servir de métaphore sur le commerce européen. Tant qu'il est vivant, il est géré par la Direction Générale Agriculture et la Direction Générale Santé. Une fois mort, il est géré par la Direction Générale Alimentation, puis exporté par la Direction Générale Commerce. Alors, il est surtout exporté en Chine, mais l'Union européenne n'arrive pas à se mettre d'accord sur une exportation européenne. Et au final, ce sont des contrats pays par pays, car les lobbies agricoles de chaque pays le demandent. Donc, il montre aussi la faiblesse de l'Union européenne, hein, qui n'arrive pas à se mettre d'accord sur certains commerces importants.
C'est intéressant, ce livre, dans la perspective des élections.
Pour ceux
qui vont voter, en tout cas.
Ah oui, oui. Et alors, l'intrigue aussi, l'intrigue est très politique. Donc, le chef de service idéaliste et dépressif lance une idée, car sa chef grecque lui met la pression. Il s'aperçoit que la commission de Bruxelles ne figure pas dans les documents fondateurs des traités. J'ai été vérifiée, c'est vrai, hein. Il faut lui chercher un fondement moral, et donc ce sera Auschwitz avec son slogan « Plus jamais Auschwitz ».
Oui.
Pour dépasser le nationalisme, alors son idée, c'est de trouver des survivants de ce camp d'extermination en s'appuyant sur le serment de Mauthausen prononcé en mai 45, qui donne vraiment un fondement moral à la construction de l'Europe. Mais le problème, c'est de trouver des survivants. Alors l'auteur dit c'est curieux parce que les nazis les avaient tous fichés, mais là ils les retrouvent pas. Alors pourquoi? Parce que beaucoup refusent de se faire connaître. Et alors, cette idée déclenche l'opposition farouche des fonctionnaires, certains fonctionnaires, et surtout des pays comme l'Autriche, la Pologne et la Hongrie.
Oui, et qui ont été moyens pendant la guerre.
Oui, qui ont été très accueillants même pour le fascisme, mais qui n'ont pas fait leur devoir de mémoire. La Pologne dit d'ailleurs, Auschwitz, c'est chez nous, d'accord, mais c'est l'Allemagne qui l'a monté, c'est pas nous. Hein. Bon.
Et puis l'Autriche a fait croire qu'elle avait été envahie par l'Allemagne, mais que,
oui.
Bon, en fait, c'était...
Que c'était une victime.
Une victime, au lendemain de l'Allemagne.
Oui. Alors, on rencontre aussi d'autres personnages très typés. Alors, il y a un religieux polonais terroriste qui est venu remplir une mission de l'ombre dans la capitale belge. Un commissaire de police qui est un ancien résistant, donc qui était aussi un espion. Un ancien professeur juif rescapé, alors c'est lui qui va être retrouvé, pensionnaire d'une maison retraite. Et un professeur, fils de sympathisant nazi. Alors, tout ce petit monde va se retrouver à Bruxelles. Alors, l'auteur se moque aussi de la Belgique et de la capitale, Bruxelles. Hein. Il raille le slogan « Le roi, la loi et la liberté » en disant « Oh, ben, on peut bien renoncer au roi, on garde la loi et la liberté ». Il raille aussi, alors il mélange aussi des vrais personnages, hein, des vrais personnages européens comme Van Rompuy, en montrant que c'était, il avait aussi une vie un peu surréaliste. Il avait une sœur maoïste et un frère séparatiste flamand. Hein. Et donc tous ces personnages se rencontrent dans des cimetières de Bruxelles qui symbolisent un peu la civilisation, et ils recherchent un monument dédié à l'amour. Bon, ça c'est un petit côté surréaliste. Hein. Mais l'important, c'est quand même la réflexion sur l'histoire, hein, l'identité, la mémoire, l'oubli, le vivre ensemble. Il dit, la génération actuellement au pouvoir en Europe n'a pas connu la guerre, et le grand risque, c'est d'oublier les principes fondateurs d'une union qui a donné l'Europe occidentale une période de paix. Donc il veut revenir aux sources du projet européen, et en même temps un plaidoyer pour une politique culturelle à l'échelle de l'Union. Alors, à la fin du livre, les personnages évoquent l'édification d'une nouvelle capitale qui serait à Auschwitz. Alors, bien sûr, la Pologne ne veut pas. Et je termine par cette... quelques phrases prémonitoires. Il dit, le futur est constitué de tendances qui s'imposent à la fin des années 20. La tendance était dans la direction du fascisme dans toute l'Europe. Était-il juste de se préparer à cette évolution? Les seuls à hocher de la tête étaient les idéalistes, les fameux idéalistes là qu'il épingle au début du livre.
Oui.
Donc voilà, c'est à la fois loufoque, mais en fait c'est une réflexion poussée sur l'histoire.
Bon, et puis qui, je le répète, est tout à fait d'actualité avec les événements politiques que nous allons connaître au mois de juin.
Très bien, Dominique. Donc, Robert Ménas, alors c'est Ménas, hein ?
Ménas, oui.
Ménas,
oui, oui.
La capitale, aux éditions Verdier, en 2019.
Oui.
Dans 15 jours, on a droit
alors,
à
quoi ? Alors, on va à Cuba, là, cette fois-ci.
On va à Cuba.
Oui, Leonardo Padura, je ne sais pas si tu connais, c'est un auteur de romans policiers à Cuba. Mmh. Qui, mais alors, il présente des romans policiers en même temps qu'une critique, mais très habile, parce qu'il vit à Cuba. Il n'a pas été, il ne s'est pas exilé, il n'a pas été emprisonné. Hein. Mmh. Et donc, je présente sa biographie intitulée L'eau de toutes parts. C'est pas du tout. Dans le Nord-Pas-de-Calais, hein, mmh. ou comment vivre et travailler à Cuba, paru chez Métayer en 2023, dans lequel il établit un dialogue intéressant entre l'histoire et la littérature.
C'est une très bonne maison d'édition, Métayer, donc ça, c'est vraiment très bien. Eh bien, merci, on se retrouve dans 15 jours, alors, Dominique.
Oui, bonne soirée.
Allez, bonne soirée, au revoir.
Nous allons poursuivre... Alors nous, on aime bien les expositions et leurs catalogues. Je vous avais présenté le 27 décembre l'exposition consacrée à Steinlen et son très beau catalogue. Cette exposition, elle est au musée de Montmartre et j'avais eu l'occasion dans la chronique des idées et des luttes sur le site du Monde Libertaire de présenter justement cette exposition. N'hésitez pas à aller au musée de Montmartre. C'est vraiment très, très, très intéressant. Agnès reprend sa place, car en fait, c'est elle la spécialiste des expositions et des catalogues. Et elle va nous parler de celle intitulée, on est un peu dans le prolongement d'ailleurs de Steinlen, intitulée « Le Paris de la modernité 1905-1925 ». Alors, qu'en est-il, Agnès ? De quoi va-t-on parler ?
Le commissaire d'exposition, Juliette Singer, a composé cette exposition magnifique avec la participation à l'écrit de plusieurs intervenants. Et le catalogue est paru aux éditions, bien entendu, Paris Musée.
C'était un très beau catalogue, hein ?
Un très beau catalogue.
Ah. Alors, est-ce qu'il y a un tableau, une œuvre symptomatique de cette exposition ?
Il me semble qu'un tableau de cette exposition est le lien le plus vibrant pour représenter cette mise en scène féerique d'inspiration artistique de tout ordre. Il s'agit de l'hommage à Blériot de Robert Delaunay. Une tour Eiffel orange dans un ciel bleu d'azur, autour d'une foule évoluant autour d'un énorme cercle aux couleurs de l'arc-en-ciel, autour de laquelle gravitent autant d'autres petites sphères, tout aussi lumineuses les unes que les autres, tel un feu d'artifice. Une multitude de disques aux couleurs primaires, du rouge, bleu, des jaunes tourbillonnants, autour de cette hélice centrale de l'avion, évoquant la liberté et l'ouverture joyeuse et dynamique vers de nouvelles horizons. Une exposition à la mesure de ce tableau enivrante qui mêle peinture, sculpture, architecture, mode, design et technologie. Nous sommes juste après l'exposition universelle de 1900, à l'occasion de laquelle furent construits deux bâtiments exceptionnels, le Grand et le Petit Palais à Paris.
Et je crois que c'est d'ailleurs au Petit Palais qu'on a cette exposition.
Tout à fait. Et des richesses de cette exposition, des collectionneurs comme Paul Guillaume s'intéresseront à l'art africain, l'art océanien.
Et on va retrouver tout ça d'ailleurs au fil de l'exposition, avec des masques africains, océaniens.
Tout à fait, hein, tout à fait. On présente très souvent les espaces avec les masques qui ont... inspiré les tableaux environnants du peintre en question. C'est valable pour des tableaux de toutes sortes de Modigliani comme de Picasso ou même de périodes autres, puisque les dadaïstes aussi se sont beaucoup intéressés à ça. Et des richesses de tout ça, les artistes, eux, à cette époque, sont toujours logés, par contre, dans des ateliers entre Montmartre et Montparnasse. Nous l'avons déjà évoqué dans des émissions précédentes.
Oui, je rappelle, par exemple, qu'on avait accueilli Mathieu Lebal, qui nous avait présenté son livre sur le Montparnasse de 1900, des années 1900. C'était lorsque Paris éclairait le monde, et c'était un très beau livre qui est sorti chez Albin Michel. Mais ces artistes logent par exemple à La Ruche,
tout à fait, près de Montparnasse. Oui, ces espaces étaient leur lieu de vie, mais aussi d'échange avec des marchands ou des poètes comme Guillaume Apollinaire. Et Picasso rassemblera beaucoup d'artistes inspirés par ses nouvelles œuvres. Je pense à son tableau aux Demoiselles d'Avignon, comme Marie Laurencin, Kees van Dongen, Brancusi, Modigliani.
Brancusi, on aura l'occasion d'en reparler plus tard, puisqu'il va y avoir bientôt une
exposition. Beaucoup d'entre eux achètent des masques africains et océaniens à des marins sur les marchés, et ces œuvres leur fournissent donc des solutions plastiques dans leur quête d'abstraction. Tous les artistes souhaitaient participer à une exposition dans ces locaux prestigieux du Grand et du Petit Palais pour se faire connaître, bien sûr, mais vendre surtout.
Mais il y avait d'autres salons ?
Il y avait plusieurs types de salons organisés à cette époque. Le Salon des artistes français, qui est un salon académique et plutôt officiel. Le Salon des artistes indépendants, salon qui avait fait vœu de libéralisme. Le Salon de la Société des Beaux-Arts et enfin le Salon d'automne qui se tiendra pour la première fois dans les sous-sols du Petit Palais avant de s'établir au Grand Palais en 1904. Le Salon des indépendants comme le Salon d'automne ouvriront aussi leurs portes aux femmes dans des petits salons particuliers. Ce sont en vérité de véritables sociétés d'artistes auxquelles les membres doivent cotiser pour se faire remarquer et payer une quittance lors de leur exposition sur le site. La vente de leur toile était gérée par un bureau de vente qui conservait 15% du montant de la vente d'une œuvre.
Alors, il va y avoir des scandales ?
Oui, les premières expositions surprennent par leurs couleurs intenses. Matisse, Van Dongen, Vlaminck, Van Gogh, Le Douanier Rousseau. On crie au scandale. Buonarroti appellera ça l'excessivisme.
Buonarroti, c'est celui qui a utilisé un âne pour peindre un tableau avec la queue de l'âne. Un tableau qui est d'ailleurs présent dans l'exposition.
Oui, démarrage tout aussi difficile pour les cubistes. Braque sera refusé, comme Picasso, au Salon des indépendants. Et il faudra attendre 1911 pour que certains groupes commencent à s'imposer. Puis des artistes italiens du groupe futuriste interviendront, Boccioni, Severini, avec des toiles inspirées de l'image vue à travers un kaléidoscope, des formes très colorées et géométriques, cassées, créant une dynamique de foule. Marcel Duchamp se fera lui remarquer en inventant le ready-made. Il créa en effet une œuvre à partir d'un tabouret et d'une roue de vélo fixée au-dessus.
Oui, elle est exposée d'ailleurs.
Tout à fait.
Ouais, ouais. La technologie est reine ?
Les progrès technologiques ayant ébloui le milieu artistique par la beauté de ses engins volants, la technicité particulière de la fabrication juste d'une hélice, tout cela transformera la manière de voir la peinture et les arts de façon générale. Mais oui, les progrès technologiques sont spectaculaires. Premier cycle, première voiture Peugeot à deux places, premier biplan exposé au Salon international de l'automobile et présent là devant vous à cette exposition remarquable dans une salle de ce petit palais. Quel spectacle audacieux! Puis les écrits évoquant une exposition de locomotion aérienne, photos des premiers records de traversée héroïque de ces engins volants. Blériot traversera la Manche le 25 juillet 1909, exploit largement salué, y compris par les artistes, comme Robert Delaunay, donc, mais aussi par le douanier Rousseau, qui peint des aéroplanes voguant dans un ciel grisâtre.
Alors on retrouve tous les tableaux que tu évoques dans le très beau catalogue de l'exposition.
Oui, il est la mémoire et la référence de cette exposition particulièrement riche et dense. Et puis, comme suspendu à une de ces sphères colorées du tableau de Delaunay, nous voici emportés dans les tourbillons de la mode, de la joaillerie, du spectacle. La mode avec Poiret le Magnifique, qui libère la femme du corset en 1906, et s'inspire du fauvisme et de l'esthétique orientale. Puis la construction du théâtre des Champs-Élysées. Il a été créé en 1913, au tout début du béton armé, et ce théâtre contribuera à apporter de l'intérêt à ce quartier des Champs-Élysées, auparavant mis de côté. On y jouera les premiers ballets russes, puis l'après-midi d'un faune de Debussy, puis le scandaleux Sacre du printemps de Stravinsky, qui fera entrer l'œuvre et le théâtre dans la légende. L'influence des couleurs, des costumes comme des décors fascinera aussi le milieu de la joaillerie et Cartier créera des bijoux aux couleurs des ballets.
Et au milieu de cette période féerique, hélas, la guerre de 14-18.
Ce sera un grand traumatisme. Le Grand Palais se transformera en hôpital militaire. Les femmes se mettent au travail, quelquefois dans des métiers difficiles, pour un salaire deux fois inférieur à celui d'un homme. Certaines intègrent la Croix-Rouge comme infirmières. Des artistes s'engagent et partent au front. Apollinaire, Sandras, Zadkine rentreront blessés, voire mutilés. La main coupée, tel est le titre d'une nouvelle de Sandras, où il évoque l'horreur des tranchées et sa blessure. Puis certains pays repartent dans leur pays, craignant des représailles, et des expositions de peintres illustrant les conflits se multiplient dans les journaux comme l'illustration, ainsi que des reportages cinématographiques.
On a des extraits hein, de tout ça au cours de l'exposition. Et puis après-guerre, ben on veut s'amuser, c'est les années folles.
Oui, en 1924, ce sont les Jeux Olympiques à Paris.
Déjà.
Paris, à cette époque, s'impose par son inventivité intellectuelle, son plaisir d'y vivre et sa liberté morale. Aussi accueille-t-elle les Américains, fuyant la ségrégation et la prohibition. La première exposition des dadaïstes Picabia, Man Ray, Tsara. Et c'est dans une atmosphère et les premiers records d'aviation de Lindbergh en 1927 qui réussit la traversée de l'Atlantique que naît le premier bar nègre, comme on l'appelait à l'époque, rue Blomet.
Ah oui.
Et la revue nègre des Champs-Élysées menée par Joséphine Baker. C'est la vogue du jazz et du charleston. Parallèlement, le style garçon s'impose, la liberté de pensée sexuelle devient plus débridée, plus libre. L'homosexualité s'affiche, de nombreux cinémas ouvrent et le théâtre n'est pas en reste. Man Ray, Brassailles illumine le monde de la photographie, André Breton écrit le manifeste du surréalisme, ébloui par les tableaux de Ernst. Ce groupe de recherche surréaliste réunira principalement des écrivains comme Paul Éluard, Louis Aragon, Robert Desnos, et ils présenteront une exposition de Hans Arp, Giorgio de Chirico, Paul Klee, Juan Miró et encore Picasso.
Et cette exposition que tu as vue là, elle est aussi originale dans sa conception.
Oui, ce n'est pas une exposition formelle telle qu'on l'entendait des expositions artistiques précédentes. C'est une exposition qui redonne vie à 20 années fulgurantes et un parcours de notre histoire phénoménale. Remarquablement bien mis en scène, tant l'effervescence et la création sont omniprésentes.
Et le catalogue alors ?
Ah ben, le catalogue est l'image conforme de cet espace d'exposition où se côtoient tant de collections diverses, technologiques, artistiques, mode, joaillerie, théâtre, musique, avec le détail historique, les commentaires d'intervenants tout aussi précieux, évocateurs de cette époque si créative. Je vous rappelle le titre. Allez la voir, c'est jusqu'au 14 avril 2024. Exposition Le Paris de la Modernité, 1905-1925. Commissaire d'exposition Julia Singer aux éditions Paris Musée 2023.
Parfait. Nous allons, puisque on a beaucoup parlé des Américains, bon, on va passer un petit extrait d'un Américain à Paris de George Gershwin. Frédéric, c'est parti.
Thank you.
Et oui, je vous avais dit qu'il s'agissait bien d'un petit extrait. Mais si vous souhaitez retrouver l'intégralité d'un Américain à Paris, allez sur l'émission, c'est la petite sœur de l'émission Au fil des pages, tout simplement parce qu'elle est beaucoup plus récente. Elle date du mois de juin et au mois d'août, nous avions eu avec Fred le plaisir de passer... de la musique américaine, ou en tout cas d'inspiration américaine, et on avait l'intégrale de Un Américain à Paris de Gershwin. Agnès a parlé de 1925 et de cette joie de vivre, en tout cas, et, ben oui, mais enfin, vient la suite. Et nous la connaissons un peu, évidemment, c'est-à-dire les années 30 et le drame qui se prépare. Une journaliste américaine, Virginia Coles, raconte l'Europe en guerre, 1936-1940, une judicieuse réédition grâce aux éditions Kalman-Lévy. Il y a comme un tocsin qui sonne. C'est une jeune femme de 26 ans, armée de sa seule machine à écrire, qui va couvrir les fronts de la guerre d'Espagne, l'invasion de la Tchécoslovaquie, celle de la Pologne, de la Finlande. Virginia Colt nous accompagne en URSS, en Angleterre, pour nous dire « Nous allons au-devant des ennuis », titre de son livre, réédité chez Kalman-Lévy. Les pages contiennent un appel lancinant « Regardez, le totalitarisme nazi, fasciste, prépare une guerre mondiale, réagissez ». Sans doute avait-elle peur sous les bombardements, mais elle avait le courage du reporter, celui qui veut montrer à ses lecteurs la réalité du moment. Quel intérêt pour nous qui connaissons la suite, et bien justement, d'être au cœur des faits. Ainsi, dans la rue, à Valence, en Espagne, à Barcelone, elle décrit cet entre-deux, ce front qui paraît loin, presque une forme d'insouciance, le manque d'organisation criant côté républicain. Et vous êtes dans la voiture qui file vers Madrid. Tout ça est très bien raconté. Les bombardements, c'est pas un roman, hein. C'est de la presse, quoi. Les bombardements, la presse contrôlée, la censure, la cinquième colonne. Tiens, nous croisons Ernest Hemingway. Des anarchistes à chaque page. Le contrôle par les communistes est manifeste. Côté franquiste, elle constate la violence et la haine à l'égard du peuple, à l'égard des républicains, le rejet envers les démocraties. Elle découvre la réalité du fascisme. Neutre au début de son séjour, c'est une petite américaine, quoi, neutre au début de son séjour, elle affirme dans son livre sa sympathie pour les républicains. Et vous vivrez son inquiétude lorsqu'elle risque d'être emprisonnée. La non-intervention de la Grande-Bretagne, la politique d'apaisement renforce les franquistes. En fait, il y a un ennemi commun, les Rouges. Les dictatures se préparent et Chamberlain, premier ministre britannique, vit d'illusions et d'atermoiements. Hitler ment, menace et en face, personne ne veut la guerre. Virginia Colt se rend en Allemagne, constate la violence des discours. La propagande joue à fond. Goebbels maîtrise tous les moyens de communication. Les habitants tiennent le même discours. Et son reportage me fait songer à... un livre de Daniel Guérin, La peste brune, paru chez Sileps, décrivant les mêmes mentalités. Son séjour en URSS est sous contrôle permanent, une police politique, l'ennui, la désinformation. Les habitants sont persuadés que la misère règne dans les pays capitalistes, la dictature interdit toute expression. Et puis le 15 mars 1939, les troupes nazies entrent dans Berlin. Les démocraties découvrent combien elles ont été bernées ou se sont laissées berner. C'était loin, c'était des histoires internes à ces pays, et brusquement, Chamberlain découvre la réalité. Attention, ce n'est pas un travail d'historien, c'est un travail de témoin. Et Virginia a la chance de rencontrer des responsables politiques et ne rapporte que ce qu'elle voit et entend. Elle possède le sens des portraits, celui de Mussolini est frappant. Son énergie, son endurance s'affichent particulièrement lors de son séjour en Finlande, qui doit affronter l'URSS et son déversement de troupes submergeant la petite armée finlandaise. Une grande technique des Russes a d'envoyer des troupes se faire massacrer, mais au bout d'un moment, il y en a tellement que on finit par submerger. Elle assiste à l'effondrement de la France, le déménagement de Paris, l'exode, les rumeurs. Avec elle, vous chercherez un moyen de quitter Paris avant l'arrivée des troupes allemandes. De retour à Londres, toujours avec elle, vous vivrez avec les pilotes de la RAF, la Royal Air Force dans la bataille d'Angleterre, les bombardements de la capitale, des teintes d'humour si british malgré ou à cause du danger, un danger qui devient mondial. Écoutons-la. Nous commîmes l'erreur de ne pas comprendre que le malheur de notre voisin était notre propre malheur et que nous formions tous partie d'un ensemble et que lorsque sonne le tocsin, il sonne pour nous tous. Virginia Coles, Au-devant des ennuis, Kalman Levy, 2023. Et puis, puisqu'on a parlé des anarchistes, je voudrais mentionner, je ne vais pas le reprendre dans le détail parce que j'ai fait un commentaire toujours sur le site du Monde Libertaire dans la rubrique des idées et des luttes, mais je voudrais mentionner le livre d'Édouard Jourdain sur, intitulé « La géopolitique de l'anarchisme vers un nouveau moment libertaire ». Édouard Jourdain est un spécialiste de la pensée libertaire et de l'histoire de l'anarchisme. Pierre-Joseph Proudhon, les grands ancêtres. Et puis, il nous donne matière à réflexion. Quels sont donnés à l'anarchisme? Quels en sont les principes? Des questions classiques. Mais l'intérêt du livre de Jourdain réside aussi dans la projection et l'adaptation de ses idées aux problématiques actuelles sur un plan mondial. D'où le titre Géopolitique de l'anarchisme, publié aux éditions Le Cavalier Bleu en 2023. Alors vous retrouverez des principes solides pour répondre aux questions. Qu'est-ce que l'anarchisme? S'agit-il d'une théorie du désordre social? Il suffit d'appeler à la rescousse Proudhon, la société cherche l'ordre, ou encore dans l'anarchie. Élisée Reclus, l'anarchisme, la plus haute expression de l'ordre. Plus loin, vous aurez des réflexions sur l'action menée par les anarcho-syndicalistes, par la CNT, à l'occasion de la Makhnovitchina. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que, comme le dit Jourdain, au regard des crises qui traversent actuellement le monde, crise du capitalisme, crise de la représentation, crise de l'environnement, crise d'un projet d'avenir commun, l'anarchisme est d'une actualité brûlante. Il est aussi porteur d'un projet fondé sur l'égalité, la liberté et l'autonomie. C'est vraiment un livre à mettre dans les mains de tous ceux qui veulent réfléchir sur les principes qui sont les nôtres, les valeurs qui sont les nôtres, et qui veulent aussi trouver des échos dans les combats qu'on a aujourd'hui, que ce soit au Chiapas, que ce soit au Rojava, que ce soit dans les luttes contre le colonialisme, ou encore des actions type en France, Nuit Debout, les Gilets jaunes, avec les assemblées de Commercy, de Saint-Nazaire, les ZAD. Bref, cette culture libertaire pose une éthique, je cite toujours Jourdain, elle dépasse la simple critique du capitalisme et de l'État. Elle prépare les personnes et les rend vigilantes afin de développer une éthique des relations nécessaire à la naissance et à la perception d'une société émancipée. Allons-y, lisez-le Édouard Jourdain, Géopolitique de l'anarchisme, vers un nouveau moment libertaire, édition Le Cavalier Bleu, en 2023. Frédéric, en l'honneur de ces anarchistes qui sont morts pendant la guerre d'Espagne, et puis compte tenu de ce que je viens de dire par rapport à Jourdain, est-ce que nous pouvons parler, me présenter, enfin passer, pardon, le célèbre hymne aux barricades ? Dans cette troisième demi-heure de notre émission, nous avons l'habitude de, que nous avons l'habitude d'intituler Varia. Eh bien, on aborde des livres qui nous ont plu comme ça et qui ont, qu'on a parfois du mal à classer dans, dans un cadre. Et Frédéric, là, va nous parler d'un livre qui s'appelle « L'ultime humiliation », parce qu'il aime beaucoup la Grèce.
Oui, bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs. Alors, cette semaine, direction Athènes, en Grèce, en 2012, avec un roman social qui mêle une fiction réussie sur fond de la grave crise économique de 2012, qui, elle, fut bien réelle et qui a secoué la Grèce. Des personnages fictifs, attachants, qui sont aux prises des difficultés induites par la crise économique et ce qu'elle pourrait ou fait subir au quotidien. De dames âgées, en personnages principaux qui, à cause de l'actualité, s'interrogent sur leur passé, dont le soulèvement de l'école polytechnique d'Athènes en 1973 contre la dictature des colonels. Une dictature, enfin un soulèvement qui a été durement réprimé avec des morts. Ces dames veulent impérativement participer à une manifestation au cœur d'Athènes en souvenir de ces moments-là. C'est une manifestation énorme, durement réprimée et qui a bien, elle, existé, cette manifestation. Et ce, malgré l'interdiction de sortir de leur maison de retraite. Il y a aussi Oreste, un jeune anarchiste, et Takis, membre de l'organisation d'extrême droite Obdoré, une organisation qui, elle aussi, existe. Ces destins se croisent, s'entremêlent dans un Athènes où vivent des sans-abri qui ont tout perdu à cause de la crise économique à l'égard de laquelle le gouvernement est impuissant comme toujours. Le travail est rare, les salaires et les retraites revus à la baisse. Il y a aussi des suicides. De courts paragraphes qui vont à l'essentiel et qui, étrangement, donnent des détails eux aussi essentiels. Un fil conducteur qui vous amène et vous amène à tourner les pages pour en savoir plus. Une histoire bien construite où tout se tient, qui fait parfois des retours dans le passé et le présent de 2012, comme si, et ceci est mon interprétation, même si les années passent, au fond, rien dans les conditions sociales ne bouge vraiment. Je dois dire qu'en 2012, j'avais par les médias eu des échos de cette crise qui pourrissait la vie des Grecs. Mais ce roman m'y a plongé, et ce, beaucoup, tout ce qui aurait pu être dit et déformé par les médias, j'en ai appris bien plus par le biais de ce roman, sur cette tragédie. Oui, une tragédie sociale qui, comme d'habitude, a été payée très cher par des gens comme vous et moi. J'ai déjà lu des romans sociaux, des pleins de bonnes intentions, ces romans qui se veulent, disons, dans l'air du temps, d'autres un peu racoleurs et surfant sur l'actualité, histoire de se présenter sur les plateaux télé et faire de la vente. D'autres carrément moins bons, où l'on ne se sert pas de son marque-page, car quelques dizaines de pages après, nous refermons ce livre. Et celui-ci, qui lui aussi laisse notre marque-page tranquille, car en effet, on n'a pas besoin de ranger, de se servir de ce marque-page, car il se lit d'un trait. Un format poche que je ne peux que vous recommander. Alors je vais vous rappeler les références. L'ultime humiliation de Rhea Galanaki, 379 pages, aux éditions Cambourakis. Ils ont un site, vous pourrez retrouver ceci. C'est à 12 €. Le livre n'est pas au catalogue de Publico, mais vous pourrez facilement le commander avec les références précitées à Publico. Il faut savoir aussi que Rhea Galanaki est quand même un grand nom de la littérature actuelle et contemporaine de la Grèce actuelle. Voilà, je vous laisse reprendre le cours de l'émission avec Francis.
C'est vraiment un roman de la vie que vient d'évoquer Frédéric, un roman social où on apprend, comme il le dit, on apprend des informations que moi je ne connaissais pas particulièrement, et c'est vraiment un roman qui est tout à fait prenant. Dans un autre style, nous allons présenter le livre de Sandrine Trenner. Sandrine Trenner, Ma vie avec Courbet. Oh, indéniablement, Sandrine Trenner sait manier les mots. Vous êtes dans le sud de la France. Tiens, c'est pas le pays de Courbet. Attendez, c'est le pays de Cézanne, la Sainte-Baume. Et un homme, Jean, jardinier, lui fait découvrir la correspondance de Courbet. Tout comme dans le roman, par une colonne, la Vendôme, le drame de Courbet. Est-ce la faute de Courbet? La question, faut-il effacer les traces du passé? Page 21, un petit extrait. Que les gens de 1871 soient favorables à la cause du peuple parisien ou pas, une question insistante se fait entendre et résonne encore un siècle et demi plus tard. Faut-il effacer les traces du passé que l'on désapprouve? Peut-on s'autoriser à détruire un monument? Un monument n'est-il pas d'abord une œuvre d'art? Question, je vous invite à découvrir. Et à son procès, Courbet se défend. Il écrit, page 23, mais en fait, et c'est Sandrine qui s'exprime, je perçois qu'il faudrait comprendre pourquoi et que la colonne Vendôme est la clé de l'énigme qui va m'occuper. De quoi donc en veut-on à Courbet? Quels sont les désordres que l'ordre accepte et lesquels ne pardonne-t-il jamais? Une question qui est bien plus général que la simple sinistre question du paiement par Courbet des indemnités. Attention, le livre n'est pas une biographie de Courbet, d'où le titre de la collection « Ma vie avec ». Les souvenirs d'enfance de famille de Sandrine Trenner surgissent au fil des pages. J'ai beaucoup aimé le passage relatif à la confiance dans la culture, une référence rare dans les tristes moments que nous traversons. Tout comme Courbet à Sainte-Pélagie, le livre lie la politique au sentiment. Pour avoir parcouru le pays de Courbet cet été, je retrouve dans les propos de Sandrine Trenner les teintes, les couleurs, la force de ce paysage autour d'Ornans. Oui, c'est un fils de cette terre, il en a l'accent, si moqué par Théophile Gautier, les sentiments, la simplicité, la chaleur humaine, dans la vallée de la Loue, vous dites oui, c'est là qu'il est. Il est nature, Courbet. Le scandale ne vient de l'origine du monde, non, mais aussi déjà de l'enterrement à Ornans. Les visages sont connus, les personnages à hauteur réelle et le peuple n'est pas caché, au contraire. Peindre le peuple, cela lui restera. Les casseurs de pierres, les paysans de Flagey revenant de la foire, les faits et gestes du peuple, la boue, les odeurs, la vie. Un art sans concession, le réalisme, le nom de la démocratisation dans l'art. On le qualifiera de peintre socialiste, normal, en raison de sa rencontre avec Proudhon, le Bisontin, dont il fera un magnifique portrait. Paris, Ornans, il a un atelier. Dans celui d'Ornans, il peint celui de Paris. Vous le connaissez, ce tableau, avec tous ses amis, ses relations, surtout au premier plan, cet enfant d'Ornans, en sabots, et en fond, toujours le peuple. C'est évident qu'il sera avec la Commune en 1871. Pour lui, la peinture est un véhicule des idées. Il refuse la Légion d'honneur, comme Brassens d'ailleurs. Il a cette phrase « J'ai toujours vécu libre ». Et « J'ai toujours vécu libre ». Laissez-moi terminer mon existence libre. Quand je serai mort, il faudra qu'on dise de moi « Celui-là n'a jamais appartenu à aucune école, à aucune église, à aucune institution, à aucune académie, surtout à aucun régime, si ce n'est le régime de la liberté. » Ah, on pourrait dire que c'est une déclaration anarchiste, ça. Pendant la Commune, il s'enthousiasme. Il est avec le peuple. Arrêté le 7 juin, il rassemble les éléments de sa défense, mais il n'est pas écouté. Grand classique. C'est une telle joie pour la bourgeoisie, les institutions, de casser ce peintre talentueux issu du peuple et à son écoute. Après le prononcé de sa peine, il connaît l'exil en Suisse. Ornans le méprise et aujourd'hui l'idolâtre. Tout est Gustave désormais, du musée au café, en passant par les rues et les places. Ah oui, tempus fugit. Et à la tour de Pelz, le 31 décembre 1877, il meurt de la détestation publique, condamné à rembourser 300 000 francs pour la chute de cette colonne Vendôme. On parle peu de Courbet de nos jours, et remercions Sandine Trainer d'avoir croisé sa route et d'y enchâsser des passages de sa propre vie au détour des rues d'Odessa et de la montagne de Cézanne. Une autrice intéressante. Je rappelle les références. Sandrine Trainer, Ma vie avec Courbet, aux éditions Gallimard, en 2023. Dernier livre de cette émission, un livre très dur. J'ai intitulé d'ailleurs le texte « Tout est odieux ». C'est un livre consacré à l'histoire, thème d'histoire, nous le savons tous. Le régime de Vichy et les forces de l'ordre ont eu un comportement odieux à l'égard des Juifs pendant l'occupation, devançant souvent les souhaits des nazis. La haine à l'égard des Israélites s'appuyant sur un antisémitisme qui traversa la Troisième République. Les ouvrages sont nombreux et nous en faisons souvent état dans notre émission. Au fil des pages sur Radio Libertaire, je rappellerai pour mémoire La rafle du Veldiv de Laurent Joly ou Une jeunesse sous l'occupation d'Alice Mendelssohn parmi les plus récemment évoqués. Nous savons aussi que les arrestations, les déportations et donc les assassinats se doublaient d'une spoliation des biens des victimes pour le plus grand profit de collaborateurs et d'individus qui faisaient semblant de ne rien savoir. Les pouvoirs publics sont décidés, à la fin des années 90, à réparer les dommages. Ah oui, nous sommes en France. Aujourd'hui, il existe une institution, la Commission pour l'indemnisation des victimes des spoliations, intervenu du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'occupation. Le titre est long et se résume avec le sigle CIVS. Il peut s'agir d'un appartement, d'un fonds de commerce, d'œuvres d'art, de bijoux, d'avoirs bancaires. Il arrive même que des biens culturels comme des tableaux soient retrouvés au hasard des ventes et restitués aux ayants droit. Cette commission publie un rapport d'activité et, par exemple, dans celui de 2022, je vous invite à découvrir le sort de la bibliothèque d'Henri Torres, avocat qui défendit des anarchistes pendant des procès dus aux lois scélérates. Récemment, Anne Grimbert, historienne, directrice scientifique du comité d'histoire de la CIVS, a publié un ouvrage à la documentation française intitulé « Sur nos traces, récits de persécution, spoliation et réparation ». Le livre débute par un témoignage, l'arrestation de Zachary Grimbert, envoyé à Drancy, puis vers la mort. Et comme l'écrit Jean-Claude Grimbert, tailleur puis dramaturge, les coups frappés dans les portes des pères résonnent très fort dans les vieilles oreilles de leurs vieux enfants. Les ombres des disparus sont là dans les pages, difficiles sans doute de choisir parmi tous les dossiers déposés, mais c'est le rôle de l'historienne de mettre en exergue les vies brisées. Il faut parler contre la falsification de l'histoire, parler des petits faits, des textes qui rendent compte de la diversité des Juifs, des Israélites français qui ne voulaient pas croire que le maréchal les abandonnerait. Le maréchal. D'autres qui venaient des rives du Bosphore, de Transylvanie, de la Sarre, de la Galicie, de Pologne, et qui croyaient dans la France des droits de l'homme. Comme les Lévi-Berkoff, avec leur confiance éperdue dans la France des Lumières. Elle est bien fragile, la culture, face à la bestialité, et pas simplement celle de l'occupant. Parfois, des enfants survivants, réfugiés en Limousin, ou, comme le dit un des témoins, les paysans étaient plus accueillants, où les petits-enfants saisissent la CIVS, non pas pour de l'argent, mais pour qu'on leur rende leur dignité d'être humain. Au fil des pages, vous croiserez des regards, des visages souriants, heureux, puis tournez la page. Et vous tombez sur une photo du camp de Gurst en France, ou celui du camp de Bergen-Belsen. Les témoignages sont poignants, et Anne Grimbert a intercalé les récits personnels avec l'histoire, celle avec sa grande hache, pour reprendre la formule de Georges Perec, le gamin de la rue Villain. Vous savez, le quartier de Belleville a l'importante communauté juive. Cela vous permettra de découvrir des vies, des faits, des souffrances, mais aussi des informations sociétales comme le pillage des coffres-forts du Crédit Lyonnais, les réseaux de spoliation au sein de l'appareil d'État. Un organisme de Vichy, le COSI, réaffectait les biens à des Français et au lendemain de la guerre, cet aspect fut mis en avant. Les archives du COSI ayant brûlé, on était tranquille. Et l'arianisation des biens a profité à certains. Évidemment, vous lirez des lettres de dénonciation, des fiches de transfert en Allemagne, celle glaciale, où il est écrit en bleu « Auschwitz ». On arrête partout. Rue de la Roquette, rue des Favorites, gare d'Austerlitz, partout et encore, aujourd'hui, difficile de ne pas songer en passant devant certaines maisons ou immeubles, aux personnes arrêtées. On prétend trop souvent que les Juifs ne se sont pas battus, et vous lirez, au contraire, des témoignages de résistants juifs. Et je comprends l'émotion de celles et ceux qui sont chargés au sein de cette commission de recueillir, d'analyser ces documents, ces témoignages. Et pour en connaître certains, eh bien, je les salue pour la qualité de leur travail et pour leur humanité. Je rappelle le titre d'un livre qui est vraiment très intéressant, passionnant. Anne Grimbert, Sur nos traces, récits de persécution, spoliation, réparation, la documentation française 2023. Chers amis, voilà des livres que nous souhaitions vous présenter pour débuter 2024. C'est fini aujourd'hui pour Au fil des pages, sur Radio Libertaire. Merci encore pour votre écoute et votre fidélité. Dans 15 jours, le mercredi 24 janvier 2024, nous recevrons Éric Fougeron, l'un des auteurs du livre « Les Inconnus de la Commune », un très beau livre publié par l'association des Amis IES et des Amis IS de la Commune de Paris, ils y tiennent beaucoup, en 2023. Vous verrez, c'est très intéressant, sans oublier d'ailleurs que vers le 20 janvier, l'armée 1871 a tiré à la demande du gouvernement sur le peuple parisien qui manifestait. On a des témoignages de Louise Michel, on a des témoignages de différents militants comme ça qui vont montrer que finalement la commune, certes, elle est du mois de mars, mais elle a commencé un petit peu avant. C'est la raison pour laquelle on a souhaité inviter Éric Fougeron le 24 janvier, le plus proche de cette date anniversaire. D'ici là, bonne lecture. Et l'équipe d'Au fil des pages vous souhaite, comme d'habitude, ni Dieu ni maître, toujours avec Léo Ferré. À bientôt et au plaisir de partager. Frédéric.
La cigarette sans cravate. Et le remords des coups de jatte, avec la peur qui tend la patte. Le ministère de ce prêtre, et la pitié à la fenêtre, et le client qui n'a peut-être ni Dieu ni maître. Le fardeau blême qu'on emballe, comme un paquet vers les étoiles, tombe froide sur la dalle, et cette rose sans pétale, cet avocat à la serviette, cette aube qui met la voilette, pour des larmes qui n'ont peut-être ni Dieu ni maître. Ces voix que l'on dit de justice, et qui poussent dans les supplices, et pour meubler le sacrifice avec le sapin de service. Cette procédure qui guette ce que la société rejette, sous prétexte qu'il n'en peut être ni Dieu ni maître. Cette parole d'évangile qui fait plier les imbéciles, et qui met dans l'horreur civile de la noblesse et puis du style. Ce cri qui n'a pas la rosette, cette parole de prophète, je la revendique et vous souhaite ni Dieu ni maître, ni Dieu ni maître.
Noyé dans dans son sang qui se fige. Un cœur tendre qui est le néant vaste et noir du passé lumineux recueille tout vestige. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Ton souvenir en moi lui comme un ostensoir.
Merde!
Je voudrais, dans cette chanson, parler de gens sans importance. Dans un journal, j'ai vu leur nom, ils s'en seraient passés, je pense. Depuis chez moi, jusque là-bas, il y a des montagnes et la frontière, des champs, des plaines et des bois, la Seine, fleuve, après rivière. Ceux qui disent, chacun chez soi, diront que ça ne me regarde pas. Mais laissez-moi vous rappeler ce qui l'autre jour est arrivé. Hey, hey.
Femmes libres.
Femmes qui se libèrent. Femmes qui prennent la parole.
Femmes qui témoignent.
Femmes qui créent.
Femmes qui se révoltent.
Femmes qui luttent.
C'est Femmes libres sur Radio Libertaire.
Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble on nous opprime les femmes, ensemble libérons-nous. Levons nos femmes esclaves et brisons nos entraves. Debout, debout, debout.
Ces femmes libres sur Radio Libertaire.
Bonjour à toutes et tous, c'est la deuxième émission de l'année 2024. Alors, la dernière émission, c'était la semaine dernière et c'était une rediffusion. Et là, on est revenu en chair et en os, comme on dit. Donc, émission féministe et anarchiste pour combattre le patriarcat, le capitalisme, les religions, tous les pouvoirs qui nous oppriment, nous exploitent, nous discriminent. Nous sommes sur Radio Libertaire pour 2 heures d'antenne de l'émission Femmes libres. Et Radio Libertaire, c'est la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Et c'est Sylvie qui est à la régie. Bonsoir Sylvie.
Et c'est Hélène qui est à l'animation. Bonsoir, voilà. Hélène.
Voilà, vous savez tout. Et nous avons une invitée, Moroni. Bonsoir Moroni.
Bonsoir, bonne année.
Alors le programme de ce soir, après la rubrique féminicide par compagnon, ça sera le portrait de Cécilia Penn-Gabochkine. Voilà, tu le prononceras sûrement mieux que moi, Sylvie, tout à l'heure, dans le cas de Ève à Philomène, sans oublier les autres. Et alors, cette Cécilia, en 1925, c'était une de celles qui avait envisagé que les étoiles soient composées majoritairement d'hydrogène. Et ça, c'était à l'encontre de tout ce que la communauté scientifique pensait. Voilà, c'est une femme, une de plus. Moruni, tu nous présenteras la situation en Inde, à la fois des femmes, mais aussi la situation politique. Et puis, je pense qu'on va prendre rendez-vous. Tu nous parleras d'autres choses dans d'autres émissions.
Avec plaisir.
Voilà. Et puis, on a quelques infos, communiqués, des rendez-vous. On démarre par les féminicides.
Encore un drame de la séparation. À Metz, un gendarme a tué sa femme avant de se suicider.
Une mère de famille battue à mort à Montpellier. Selon les voisins, elle était prisonnière
de Tunisie. Une marche est organisée pour une adolescente de 13 ans brûlée vive par son père.
Le jeune homme avait tué sa petite amie par jalousie.
Une nouvelle série de viols et de meurtres sordides de femmes en Inde et au Pakistan.
Du nouveau dans l'affaire Pistorius, le champion a été reconnu coupable d'homicide involontaire.
Une femme enceinte et ses deux enfants ont été retrouvés égorgés dans le Val-de-Marne.
Drame familial à Groix. Un homme mis en accusation pour l'assassinat de...
Le corps d'une Allemande vient d'être découvert dans le bar.
Ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des accidents. Mettons un terme à ces crimes machistes. Reconnaissons le féminicide.
Voilà, donc d'après Féminicide par compagnon ou ex, 4, c'est le chiffre censé dans les médias sur Internet, des féminicides par compagnon ou ex-compagnon en France depuis le début de l'année 2024. Je rappelle qu'en 2023, on avait démarré le 1er janvier avec 3 féminicides. Mais c'est toujours des chiffres à minima. Et je rappelle aussi que depuis